Chamonix à Clion, de Veto à Écra, de Vernet à Collonges et Gare 33, MPX, c'est la radio de Montre-Est. Primaire, secondaire. MPX, la radio des élèves de Montre-Est.
Bonjour, bienvenue sur Radio Montre-X. Bonjour, bienvenue sur Radio MTX, la radio des élèves de Montre-Est. C'est Rita
et Morgane,
notre classe de RAC 1.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sortie de classe au musée de l'Ermitage sur le thème des ombres et des lumières. Avant ça, on vous passe Another Life de Afrojack et David Guetta.
Alors Morgane, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce musée ?
Eh bien, l'Ermitage n'a pas toujours été un musée, figure-toi. C'était à la base une maison, la maison de la famille Bunion, une famille riche.
Et il se situe où, ce musée ?
Il se situe sur les Hauts de Lausanne, à la rue du Signal 2. On a dû marcher un long moment avant d'y arriver.
Quand on est arrivé, il y avait une guide qui nous attendait à l'entrée.
Oui, l'exposition nous faisait découvrir 500 ans d'histoire de l'ombre dans l'art occidental, à travers 140 œuvres allant de la peinture à l'installation, en passant par la sculpture, le dessin, le découpage, la photographie ou encore la vidéo.
Oui, et j'ai vu que l'ombre occupe une place symbolique dans notre culture visuelle. On fait tous quotidiennement l'expérience de l'ombre projetée.
C'est vrai que ça nous intéresse dès l'enfance, les jeux d'ombre faisant certainement partie des divertissements les plus anciens.
On m'a dit que l'ombre naît de la lumière, enfin plutôt de l'absence de lumière. Elle se définit comme une diminution plus ou moins importante de l'intensité lumineuse dans une zone soustraite au rayonnement direct par l'interposition d'une masse opaque.
Intéressant tout ça. Et maintenant, on va vous laisser avec Marcia qui va nous présenter deux œuvres.
Je vais vous parler de deux œuvres qui m'ont beaucoup plu parmi tant d'autres. La première œuvre se trouve dans la salle 1. Elle a été peinte par Eugène Delacroix en 1818. Eugène Delacroix a peint ce tableau à l'âge de 20 ans. Il a peint son autoportrait. Il y a un fort contraste entre le fond très sombre et la figure éclairée par la droite.
Et qu'as-tu aimé dans ce tableau ?
J'ai aimé l'idée qu'il fasse un autoportrait. On peut voir que sur le tableau, l'artiste a le regard fixe, se détache frontalement du fond sombre et seul son visage est éclairé par une lumière très forte venant d'en haut à droite. Symboliquement, on peut y voir l'émergence du jeune peintre qui réussit à s'extraire des ténèbres. Peint à l'âge de 20 ans, cet autoportrait traduit avec force le tempérament et la détermination du génie en formation. La deuxième œuvre que j'ai choisie a été peinte en 1776-1791 par Joseph Benoît Suvé et elle se trouve dans la salle 3.
Qu'est-ce qu'on y voit sur ce tableau ?
Sur le tableau, on peut voir une femme qui dessine les contours de l'ombre d'un homme et ils sont dans un atelier avec des pots autour d'eux. Il s'agit d'une ombre double, mais la charge symbolique de l'ombre ne s'arrête pas là. Depuis l'Antiquité, il se raconte que l'ombre est au cœur de l'invention de la peinture, du dessin et même du modelage en bas-relief. Pline l'Ancien explique qu'une jeune femme corinthienne dessina les contours de l'ombre de son bien-aimé qui se projetait sur un mur pour en garder une image avant qu'ils ne soient séparés. Ce tableau met en scène une jeune femme inventrice d'un art. Ça montre le rôle central de l'ombre dans la conception artistique occidentale.
Et parmi ces deux œuvres, tu en as préféré une en particulier ?
Oui, j'ai bien aimé l'histoire de la peinture de Joseph Benoît Suvé, où la femme dessine l'ombre de son bien-aimé.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style ? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, veux pas faire un tour. À quoi ça sert de faire un tour? Non, je ne veux pas me défaire de ce si bel enfer qui commence à me plaire. Je ne veux pas quitter mon salon. Non, 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 non.
Et maintenant, on va laisser la parole à Loana et April qui vont vous parler de la première salle du grenier.
Oui, alors on a été au premier étage à la salle 4. Nous avons pu écouter la guide qui nous a présenté une œuvre de Caspar David Friedrich.
Tu peux nous en dire un peu plus sur lui ?
Oui, bien sûr. Caspar David Friedrich est en fait un maître du paysage romantique. Il a souvent peint des vues nocturnes dans lesquelles une lumière tenue provenant d'un clair de lune, des premières ou derniers rayons du jour. Il aime mettre en avant des modèles grandioses tout en renforçant l'angle et la solitude du paysage.
Ah, c'est intéressant, mais du coup, tu peux nous dire le nom de l'œuvre et aussi nous la présenter ?
Oui, alors le nom de l'œuvre est un bateau de pêche entre deux rochers sur une plage de la mer Baltique. Il a été peint en 1830-1835. Ce tableau est construit avec une limite mer ciel au milieu de l'œuvre, deux rochers presque symétriques et une berge traçant un arc de cercle au premier plan.
Il y avait quoi comme ambiance sur le tableau et comme couleur aussi ?
L'ambiance est assez crépusculaire. Le peintre a choisi une palette de couleurs sombres allant du bleu au brun. Il peignait les silhouettes des rochers en noir. Il a profité des derniers ou premiers rayons du soleil pour ajouter quelques minuscules touches de couleur orange sur le bateau de pêche et sur la surface de la mer.
La guide nous avait dit que la Renaissance, la nuit, était devenue un sujet pour les peintres, qu'ils cherchaient à montrer l'obscurité qu'ils gagnaient, la terre lorsqu'elle rentrait dans son ombre. Il utilisait des contours accentués et des tons sombres.
C'est vrai, je m'en rappelle. Ce peintre a beaucoup joué avec la qualité de la lumière faible et dorée. On dirait que cette scène du tableau se passe le soir, juste avant la tombée de la nuit. Mais rien n'est sûr. On ne sait pas s'il s'agit du retour du bateau de pêche le soir ou de son départ tôt le matin.
En tout cas, je trouve cette œuvre très belle. Et le coucher ou le lever de soleil est très réussi.
Après cette œuvre, nous avons été à la salle 5 du musée pour voir un autre tableau, celui de Claude Monet, dont le titre est « Londres, le Parlement, reflet sur la Tamise ». Il a été peint en 1905.
Sur ce tableau, les ombres ne sont pas représentées dans des tons sombres, comme le noir-brun ou encore le gris, mais plutôt avec des couleurs franches et éclatantes.
Oui, la guide nous en avait parlé. Elle nous avait aussi dit que les palettes de peinture des peintres était relativement restreinte pour ce type de tableau en bleu, vert, violet, mauve, rose et jaune clair.
Elle nous a aussi dit que le théoricien de l'art Léon Battista Alberti ainsi que d'autres peintres ont remarqué que la couleur de l'ombre offre une infinité de teintes et de nuances qui dépendent des sources de la lumière et des surfaces que celle-ci atteint.
J'ai remarqué que l'eau de la Tamise vibre grâce à une multitude de touches horizontales qui se chevauchent. La haute silhouette au Parlement est rendue par de longs coups de pinceau verticaux. Le mouvement des nuages et de l'air est représenté avec des touches courbées. Ce tableau a plusieurs zones distinctes.
Le peintre a aussi rendu le bâtiment du Parlement comme une présence fantomatique. Le bâtiment est vu en contre-jour. Il n'y a aucun détail de la façade qui apparaît. Le contour de la silhouette est flou, il ne semble former qu'une masse avec son ombre portée qui se dilate à la surface de la Tamise.
Je trouve que cette œuvre est très originale, j'ai bien aimé que les ombres soient représentées par d'autres couleurs que le noir et le gris.
Et après les deux tableaux, nous sommes montés au grenier et nous avons retrouvé une des nombreuses œuvres d'art de Christian Boltaski.
Mais qui est-il ?
Christian Boltaski est un artiste qui a puisé aux sources de la culture populaire pour un bon nombre de ses travaux. Il a emprunté le principe des ombres projetées au théâtre d'ombres dites chinoises, un genre de spectacle très prisé en Europe entre la fin du XVIIIe siècle et du début du XXe siècle.
Mais alors, le théâtre d'ombre, c'est quoi ?
Le théâtre d'ombre a commencé en 1984 et il laisse apparaître son dispositif, ses petites figures dérisoires, son mécanisme bricolé, faisant ainsi écho au mythe de la caverne sur le mode burlesque. Les silhouettes dansantes, tout à la fois joyeuses et inquiétantes, qui se déploient dans le grenier de l'Ermitage, évoquent les fantômes et les peurs nocturnes des enfants. Dans sa légèreté et sa gravité, cette œuvre est également proche de la danse macabre. Comment s'appelle son œuvre ? L'œuvre que nous avons vue s'intitule Théâtre d'ombre. Elle a été créée en 1984 jusqu'en 2019.
L'installation de Baltaski ne représente pas son dispositif de mise en scène, mais le place au centre de la pièce, sous le regard des spectateurs. On ne peut se sentir amusé par les petites figurines qui dansent et qui rappellent le monde de l'enfance, et en même temps effrayé par ce bal monstrueux qui fait penser à une danse macabre. Le mouvement circulaire répétitif et le léger bruit entraînent facilement le spectateur dans une sorte d'hypnose.
Cette œuvre m'a vraiment donné les frissons.
Oui, moi aussi, et c'est surtout le fait que nous n'avons pas l'habitude de voir ce genre d'art.
Comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse d'en aller, marche, lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage.
Et maintenant, Amer et Pélasque vont nous parler du sous-sol.
Donc voilà, nous avons été chargés de vous présenter la partie souterraine de cette exposition Ombre à la Fondation de l'Ermitage. Dans un premier temps, nous allons vous présenter différentes œuvres que nous avons pu observer grâce à notre guide. Et par la suite, nous allons vous donner notre ressenti par rapport à ces œuvres. Alors pour commencer, la première œuvre qui nous a attirés et intéressés est celle de Christian Schindt, peinte en 1928.
Pourquoi ?
Parce qu'une étrange ombre se cache derrière le portrait du docteur Hausstein. Christian Schindt a représenté une silhouette de femme derrière le dos du docteur, enfin, c'est ce qu'on pourrait penser.
Ah oui, alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, c'est la psyché de notre docteur Hausstein, une façon de décrire une deuxième et véritable personnalité du portrait de la personne en question.
C'est intéressant.
Du coup, pour moi, c'est un portrait très original, mais on ne s'y attend pas à ce que cette ombre soit représentée comme ça par rapport au vrai visage du docteur.
Ensuite, comme dernière œuvre, nous avons pu constater que c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'était une œuvre faite par Tim Noble et Sue Webster. Ils reviennent aux sources mythologiques de l'ombre, avec une œuvre faite de petits riens qui, assemblés, livrent une image absolue. Ils rejouent, non sans humour, les ombres primordiales, l'ombre du jeune amant de la belle corinthienne, qui se confond ici avec celle de l'artiste. Cette œuvre est faite de morceaux de bois assemblés d'un projecteur et d'une ombre portée au mur. Les morceaux de bois et les déchets ont été ramassés par les deux artistes dans leur atelier. En utilisant ces matériaux destinés normalement à la poubelle, il leur donne une seconde vie, grâce au jeu d'ombre et de lumière. L'ombre portée de cet amas de bois, comme par magie, révèle la silhouette d'un jeune homme, celle de Tim Noble. Et pour finir, j'ai trouvé cette œuvre très originale, de voir qu'on peut faire de telles choses juste magnifiques avec de simples objets et de l'imagination.
Pour la première œuvre, elle est assez spéciale, mais moi, personnellement, j'ai pas vu une femme. On dirait plutôt un alien, ou je sais pas, par rapport à ses mains, on dirait qu'il a que 3 doigts. Du coup, c'est bizarre, mais...
Moi, je m'en rappelle pas de la
tête. S'il y avait plein de déchets et tout, et puis ça faisait un gars au fond, avec un projecteur. On pouvait se balader autour.
C'était bizarre de voir qu'en assemblant plein de petits objets qui ont tous une forme différente entre eux, bah, au final, ça fait quelque chose de très... Enfin, ça fait une seule forme, en fait, ça fait une silhouette. Et du coup, c'était intéressant à voir. Maintenant, on vous laisse avec le titre « The Ocean » de Mike Perry.
Thank you. keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin, 'cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into your ocean.
Conclusion perso, j'ai trouvé que c'était un peu long pour seulement quelques tableaux. On aurait préféré avoir une visite simple.
C'est vrai, on a passé beaucoup de temps sur quelques œuvres et du coup on n'a pas pu tout voir. Mais c'était quand même intéressant parce qu'elle nous expliquait pourquoi les artistes ont fait ça ou ça avec l'ombre.
Oui, c'était intéressant de pouvoir voir comment ils travaillaient les ombres de façon différente.
C'est la fin de notre émission, on espère que ça vous aura plu et... Voilà. Et on vous laisse sur In This Love de Bob Marley.
Marley.
La radio des élèves de Montreux-Est.